Tout récemment, en avril 2025, un universitaire américain du nom de Paul Chambers a été arrêté en Thaïlande. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Est-ce que vous savez quel était son crime ? Non ? En fait, il a participé à un webinaire dans lequel il tenait des propos sur la monarchie. Il n'a ni insulté ni critiqué directement le roi, mais dans ce pays, la moindre parole jugée ambiguë ou irrévérencieuse envers la royauté peut vous envoyer en prison pour 15 ans, par phrase. Je suis allé en Thaïlande et à Bangkok et on m'a averti. On m'a dit « Attention, quand tu parles pas du roi ». Et on est allé visiter le temple juste à côté du palais du roi et c'est pris très très au sérieux. Il y a un article dans le code pénal thaïlandais, c'est l'article 112, vous pourrez vérifier. C'est un article sur la loi dite de lèse-majesté. C'est sans doute l'une des lois les plus strictes au monde en matière de parole. Toute offense contre le roi, même sur Internet ou depuis l'étranger, peut être jugée comme un crime d'une gravité extrême. Donc là, ce matin, il faut que je fasse attention. Comment une offense, même involontaire, pourrait-elle valoir des années d'emprisonnement ? En fait, pour la plupart d'entre nous, cette loi est choquante. Elle semble démesurée, abusive et, j'ose le dire, tyrannique. Et pourtant, cette logique de l'honneur absolu n'est pas du tout nouvelle. Elle existe depuis fort longtemps et est même très présente dans la Bible. Et aujourd'hui, on va voir une situation où justement l'honneur de Dieu est en jeu. Et on poursuit notre série qui s'intitule « Les os de la Bible » ou « Les os de la Bible », hein, on ne prononce pas le « os », mais c'est pour pas mélanger les os, E-A-U-X, avec les os. Et donc, c'était le premier message qu'on avait vu ensemble sur Ouza. Vous savez, cet homme, ce serviteur qui était là pour dépanner, l'arche va tomber et il va retenir l'arche pour pas qu'elle tombe. Et qu'est-ce qui se passe ? Pan ! Foudroyé ! Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder le message. On a regardé un autre os, une autre difficulté que l'on trouve dans la Bible, c'est toute la conquête de Canaan, où on voit des massacres, une extermination des gens qui sont sur place. Là encore, cette vidéo est sur YouTube, donc je vous invite à la regarder. On a vu aussi cet épisode vraiment étrange où Dieu vient combattre Moïse et il vient pour le tuer. Et on voit que Séphora va circoncire son fils et ils vont être libérés. Des textes qui sont vraiment étranges, difficiles à avaler. Et ce matin, eh bien, figurez-vous que c'en est un autre. Et j'ai fait un listing, honnêtement, on pourrait faire ça toute l'année, hein. Mais ça fait partie des textes les plus difficiles. Je vous cite ici un commentateur de la Bible qui dit, donc c'est Sidlow Baxter. Il dit « Aucun incident de l'Ancien Testament n'a, semble-t-il, suscité plus de critiques que celui-là. Les ennemis de Dieu l'ont gardé comme un atout dans leur jeu d'arguments contre ceux qui prétendent que la Bible est la parole de Dieu. » Donc on va voir un texte aujourd'hui vraiment difficile. Un texte qui peut, je pense, semer le doute ou vous faire remettre en cause la bonté de Dieu ou la grâce de Dieu. Mais j'aimerais juste vous donner une illustration ici. Un jour, quelqu'un a dit qu'un bateau ne coule pas à cause de l'eau. En fait, il est conçu pour naviguer sur l'eau, le bateau. Un bateau coule lorsqu'il prend l'eau, lorsqu'il y a une brèche dans sa coque qui permet à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Et de même, un chrétien ne coule pas lorsqu'il est confronté aux idées du monde, aux éléments contradictoires ou lorsqu'il se trouve devant un texte qui heurte sa sensibilité. Non, il coule lorsqu'il laisse le doute pénétrer et envahir progressivement son cœur, lorsqu'il laisse ses émotions prendre le dessus sur sa foi, lorsqu'il remet en cause l'amour et la bonté de Dieu au détriment de sa justice et de sa sainteté. Et c'est ce que je souhaite et ce que je souhaitais prévenir en faisant cette série. J'aimerais que vous développiez, que je développe un réflexe. Lorsque vous êtes devant un texte de la Bible, ne remettez pas en cause la Bible. Remettez en cause votre interprétation ou votre compréhension du texte, mais ne remettez pas en cause la Bible. Jésus n'a jamais remis en cause l'autorité de la Bible. Au contraire, il a affirmé qu'elle était la parole de Dieu et que chaque vérité qu'elle contient allait subsister jusqu'à la fin du monde et même que ses promesses s'accompliraient à la virgule près, au trait de lettre près. Donc, cette parole est fiable, les amis. C'est notre compréhension qui l'est pas. Et on aura toujours une compréhension imparfaite. Et même ce que je vais vous dire ce matin, c'est pas parfait. Il y aura des moments où ce sera spéculatif, où je vais le dire, je vais vous dire, ben ici, voilà, plusieurs interprétations sont possibles. Mais il n'y a pas d'affirmation péremptoire. Surtout sur ces textes difficiles. Mais, malgré tout, on va réussir à tirer des applications. Alors, je vous invite, on va pas trop tarder, hein, parce que là, je vous ai mis un peu l'eau à la bouche, on va plonger dans ce texte qui se trouve dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, et c'est trois versets, juste trois versets, mais vous allez voir, c'est de la bombe, de la bombe. Voici le texte. Il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ces adolescents. De là, il se rendit au Mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Alors, qu'est-ce que vous ressentez à la lecture de ce texte? Qui entend ce texte pour la première fois? Je pense que vous êtes choqués, n'est-ce pas? Ça vous choque? Qui sont ceux qui sont surpris mais sans plus? Qui trouve ça normal ou juste? Je suis le seul? Ah, on voit que certains ont étudié le texte. Bah écoutez, allez-y, venez. En toute franchise. La première fois que j'ai lu ce récit, je suis resté scotché. Et pas seulement la première, la deuxième, la troisième. En fait, à chaque fois que je suis tombé sur ce texte, avant que je l'étudie, j'étais choqué. En fait, je m'imaginais le groupe d'ados ou de pré-ados, nos pré-adorateurs de l'église. Un qui fait une mauvaise blague à son moniteur. Ça, quelle vie si naissante, hein, chez moi. Mais il y en a, c'est un peu plus avancé. Et là, POM ! La sanction est terrible. C'est ce qui se passe ici. Elle semble démesurée. Exécuter froidement 42 enfants pour une plaisanterie déplacée, honnêtement, c'est un peu choquant. Et je pense que si vous avez levé la main quand j'ai demandé, si c'est la première fois que vous lisez ce texte, les amis, ça doit vous choquer. Et c'est normal. C'est normal. Mais il y a plusieurs raisons qui nous choquent. C'est que là, je vous ai balancé un texte hors de son contexte. Et encore un texte, honnêtement, on va regarder de très près. Ce matin, on va faire une sorte d'enquête à la Sherlock Holmes. On va prendre notre longue vue, vous voyez, pour regarder le contexte historique, pour regarder le contexte religieux de l'époque. Et puis, on va prendre une loupe, voire un microscope, pour regarder le texte de près, le vocabulaire, les mots utilisés, les personnages. On va vraiment regarder ça dans le détail. Donc, ce matin, c'est pas à structurer de la même manière. C'est compliqué de structurer un message en trois points, même s'il y a trois versets. Mais on va faire une enquête à la Sherlock Holmes. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans cette enquête? Et les enfants aussi. Et on va regarder le texte, du coup, à la loupe. Et on va aussi prendre un peu de recul. Allez, on commence par déjà analyser les personnages de l'histoire. Les personnages. Alors là, on ne sait pas qui c'est en fait. Il monta de là à Bethel et comme il montait par le chemin, de petits jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Donc vous voyez, on voit à chaque fois, on revient le il. C'est qui il? Ah, voilà, alors là, il faut lire avant. On est d'accord? Si on vous balance ce texte, il, c'est pas Franck, hein. Non, il descend pas de bon Chablais pour venir à Genève. Non, non, non. C'est ici un prophète. Il monte, d'ailleurs, il descend pas. Il monte à Bethel. Ok, donc il est en bas. Il est en train de monter à Bethel. Et vous allez voir que chaque mot compte ici. Alors, vous l'avez deviné, le verset 23 fait référence au prophète Élisée. À cette époque, Élisée était un jeune prophète tout fraîchement consacré par son mentor Élie. D'accord ? Alors, il ne faut pas forcément imaginer ici le prophète Élisée comme ce personnage-là. Hein ? Quand on voit, il est chauve. Probablement qu'il est chauve. Alors, on ne sait pas pourquoi il est chauve, d'ailleurs. Est-ce que c'est une calvitie prématurée ? Parce qu'il n'avait pas forcément une grande barbe blanche, comme on peut imaginer les prophètes. J'ai tapé, hein, moi je suis allé sur Internet et j'ai tapé « photo prophète Élisée ». Et voilà ce qui ressort la plupart du temps, c'est un gars chauve avec une grande barbe blanche. Et là, je vous induis déjà, parce que ça vous dit quoi quand je vous dis « tiens, le prophète Élisée, c'était un vieux grand-père ». Ben non, non, il était probablement jeune Élisée, plus de ce type-là. Je ne sais pas s'il était aussi grassouillet, mais en tout cas, il mangeait probablement, comme les prophètes, des sauterelles et du miel, donc il ne devait pas être très épais. Mais c'est plutôt ce profil-là, vous voyez, jeune, la trentaine. En fait, il finit son stage avec Élie quelques heures avant. Et il se passe des choses juste avant, et on va les regarder de plus près. En tout cas, on ne sait pas pourquoi il est chauve. Est-ce que c'est sa calvitie naissante ? Est-ce qu'il a fait un vœu de Naziréa ? Est-ce qu'il a fait un pari stupide avec des copains ? C'est peut-être le cas. On ne sait pas, en fait. On l'ignore. Donc, vous voyez, là, c'est pourquoi il est chauve ? Je ne sais pas. Si vous savez, alors ne le dites pas trop fort, hein, parce que le texte ne dit rien. En tout cas, son ministère de prophète débute au chapitre 1. Et là, on est à quel chapitre ? Au chapitre 2. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au tout début du ministère du prophète Élisée. Et donc, le jugement de ces jeunes enfants, et là je mets des gros guillemets, ça fait partie de ses toutes premières expériences dans le ministère. Élisée est un prophète en herbe, un stagiaire quelque part, qui vient de recevoir son diplôme de l'IBG. Hein ? C'est un petit peu un Bruce. Il vient de recevoir son diplôme de première année, maintenant il doit faire ses preuves. Et il est en plein là, parce que ce qui se passe lorsqu'on est jeune et qu'on débute, surtout pour un prophète, il faut que tu nous montres ton autorité, que tu nous montres qui tu es, comment Dieu t'a appelé et pourquoi tu es là, en fait. Il devait faire ses preuves, et c'est ce qu'il va faire. Et si vous lisez donc le premier chapitre et le début du deuxième chapitre, vous allez voir des trucs surprenants. Par exemple, Élisée, il demande une double portion de l'esprit d'Élie. On se dit, tiens, c'est un peu ambitieux. C'est normal, il est jeune, il débute, je veux la double part que toi. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'ambition, en fait. On n'est pas dans les prophètes de maintenant, vous voyez, ceux qui cherchent à avoir une notoriété, à être visibles sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous les voyez, ils mettent en avant. Je ne pense pas que ce soit le cas. Dans l'Ancien Testament et même dans toute la Bible, il n'y a aucun prophète qui cherchait un bénéfice ou attirer le regard sur lui. Son but, c'était d'attirer le regard sur Dieu. C'était sa mission et ça devrait être la mission, les amis, de tous les prophètes. C'est-à-dire de pointer sur Dieu, de pointer sur la parole de Dieu, sur l'autorité de Dieu, sur la souveraineté de Dieu, sur la majesté de Dieu, mais généralement jamais sur les humains. Jamais, jamais. Et donc quand il demande cette double portion, c'est plutôt en référence au fils aîné. Vous savez que dans la loi, dans les Lévitiques, il est stipulé que l'aîné de la famille devait recevoir une double portion. Et donc il se plaçait probablement comme un peu son fils spirituel, son enfant spirituel. Et c'est pour ça qu'il réclame cette double portion en se plaçant sous cet angle quelque part, cette perspective. Bref, on passe ici et on va lire les versets 11 à 15. Je vous ai ici copié les versets. Parce que c'est important, ça fait partie du contexte immédiat de notre texte. Et regardez ce qui se passe. Comme il, là j'ai oublié les parenthèses, donc Élie et Élisée continuaient à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et... Attendez, il les saisit... J'ai raté quelques lettres là. Et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élisée passa le Jourdain. les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho le virent et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et là, on voit quelque chose d'assez hallucinant. Élisée fait le même miracle que son maître. Et ça fait référence à d'autres prophètes. Ça vous rappelle rien? Quelqu'un qui a ouvert la mer? Moïse. Qui c'est qui a ouvert juste après lui, son prédécesseur? Josué. Il a fait la même chose avec le Jourdain. Et donc ça, c'est une preuve qu'il fait bien partie de la lignée, vous voyez? Il fait la même chose. Qu'est-ce qu'a fait Élie juste avant dans le chapitre 1? Il ouvre le Jourdain. Élie vient d'ouvrir le Jourdain. Et qu'est-ce que fait Élisée? Il prend le manteau. Donc vous voyez, quelque part, c'est le bâton. Parce qu'en plus, il roule et il tape l'eau. Donc ça fait comme un bâton. Mais c'est un petit peu le bâton de relais. Et donc Élisée fait exactement la même chose. Alors, j'en ai pas vu beaucoup aujourd'hui des prophètes qui prenaient un vêtement, qui le roulaient, qui frappaient le Rhône, par exemple, ici à Genève, et qui passent à pied sec. Hein? Si vous en avez, vous m'appelez tout de suite. C'était une période particulière. Et donc, Élisée, ici, fait un miracle extraordinaire, et c'est vu, et c'est constaté. Vous avez vu la fin. L'esprit de le constat des gens qui sont là, qui observent. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et le bruit va courir dans la ville de Jéricho et bien sûr dans la ville de Bethel. Parce que ce genre de miracle, les amis, ça n'arrive pas tous les jours. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc les gens parlaient. C'était le téléphone juif pour l'époque. Et donc ça circulait l'information. En tout cas, ici, Élisée fait un miracle extraordinaire. Et tout de suite après, il faut lire la suite du texte, du verset 19 au 22, Élisée va faire un autre miracle, mais ça va être sous forme de prière et aussi un miracle, mais de bénédiction. En fait, à Jéricho, il y avait une source qui produisait une eau infecte et en plus qui était même mortelle si on en buvait. Je pense que c'était pour les petits-enfants, parce que quand on dit infecte, c'est qu'on en boit, elle n'est pas terrible, mais peut-être que quelqu'un de fragile, s'il en boit, et le texte dit clairement qu'elle était mortelle, cette eau. Et il va faire une prière et il va bénir cette ville de Jéricho, et il va assainir cette source. C'est pas juste, il met du sel, et là tout le monde dit, ah oui, c'est un procédé normal, c'est chimique. Non, c'est la source. Une source, ça coule, hein. C'est pas juste une bassine, et puis tu mets du sel dedans, et ça y est. Non. C'est un vrai miracle, parce que l'eau va rester comme ça. C'est la source qui est assainie. Donc quand on assainit une source, c'est pas juste 3 grains de sel. Ça, c'est uniquement symbolique. Symbole de purification, probablement. Mais il va prier et Dieu va répondre d'une manière extraordinaire. Donc vous voyez, Élisée fait un miracle qui montre son autorité et montre qu'il est de la filiation d'Élie, donc qui fait partie de ses grands prophètes. Et ensuite, il va faire une prière de bénédiction, donc un miracle qui va bénir toute une ville. Ok, ça c'est le contexte. Ça met légèrement en perspective finalement ce qui se passe juste après. Si vous êtes un homme de Dieu, en général, quand vous démarrez le ministère, il y a des bonnes choses qui se passent. Mais à un moment donné, il y a le baptême du feu. Le baptême du feu. J'ai commencé mon stage pastoral en juillet 1999. En septembre 1999, j'avais une division dans l'église. Quelqu'un... Enfin, c'était pas dans l'église, c'était quelqu'un qui commençait à fomenter des choses dans l'église et ça commençait à faire du bruit. J'ai dû convoquer toute l'église. Et c'est moi, en tant que jeune stagiaire qui était devenu le pasteur. Alors non, j'étais pas stagiaire, non, je venais juste d'être nommé pasteur. 2 mois plus tard, bing, division. Donc j'étais plus stagiaire. J'étais exactement comme Élisée ici. Baptême du feu, les amis. Tu dois faire tes preuves. Et là, le Seigneur nous attend et quelque part, les gens nous observent. Eh bien, à partir de ce moment-là, les gens avaient un autre regard sur moi. Ils me respectaient. Parce que j'étais jeune, j'avais 33 ans quand j'ai démarré. C'est relatif, hein, mais quand même, 33 ans, j'étais un jeune pasteur. Et cet événement a assis mon autorité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il va se passer une chose difficile que Élisée n'a pas choisie. Ça s'est présenté comme ça. Mais il va montrer son autorité. Il a montré son autorité en faisant un miracle et en bénissant. Et là, en maudissant. Un prophète de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est comme si vous étiez en face de Dieu. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Sanction immédiate. Le Jourdain, il s'est ouvert comme ça. Il a prié, il s'est ouvert. La source, elle s'est assainie comme ça. Et là, il prie et malheureusement pour ces jeunes, bon, la sanction est immédiate. On verra pour les applications. Hein. N'allez pas trop vite, mais voilà, ça, c'est les données du texte. Première donnée, donc, on a focalisé notre attention sur le « il » du texte. Et maintenant, on va se focaliser sur l'autre partie qui, dans cette version, est traduite par « petits-enfants » ou « jeunes-enfants » dans d'autres versions, ou même dans ma version Colombe, le mot « adolescent ». Et c'est pour ça que, quand on lit le texte, immédiatement, on s'imagine le groupe d'ados de chez nous. 42, alors ça ferait beaucoup, mais quand même, ça fait, vous voyez, tout. Là, on est à peu près une quarantaine de personnes. 42 adolescents. Des petits jeunes enfants. Peut-être que vous les voyez même plus jeunes. Comment vous les voyez, ces jeunes? Plutôt comme ça? Ou plutôt comme ça? Quand vous lisez le texte, voilà, ça dépend de votre version, quelque part. Eh bien, vous allez probablement changer d'avis. Maintenant qu'on va regarder de près les mots. Parce que, en fait, c'est une expression. Il y a deux mots. C'est nagar katan. Nagar, donc ça veut dire, c'est traduit par jeunes enfants ou enfants jeunes. Okay ? Le premier, nagar. En fait, nagar, dans Genèse chapitre 22, le mot est employé pour décrire le jeune homme qu'Abraham avait pris avec lui pour sacrifier Isaac. Vous vous souvenez ? Donc Isaac, il avait 22 ans et on suppose que le jeune homme avait quelques années de plus. Donc c'était un serviteur. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, un serviteur. Parce que on le voit encore ailleurs. Par exemple, en Genèse 21, verset 12, il est employé pour Ismaël. Et là, à ce moment-là, Ismaël, il avait au moins 16 ans parce qu'il en avait 14 à la naissance d'Isaac. Donc il avait au minimum 16 ans. Donc, vous voyez, on n'est déjà pas dans la tranche des tout jeunes. Ensuite, on le voit en Genèse 22,5 et 44,31, il est utilisé pour Benjamin, qui lui était âgé de plus de 30 ans. Et c'est un terme qui signifie souvent cadet. Vous voyez, c'est l'autre mot. Oui, c'est ça. En fait, quand on utilise le même mot pour quelqu'un qui a plus de 30 ans, vous voyez que ça relativise le mot « enfant ». Et effectivement, je pense que je vais m'adresser à Guy parce que je sais que sa maman est encore en vie. Est-ce qu'elle dit « mes enfants » quand elle parle de toi ?« Mon enfant » Et elle dit « mon enfant premier-né » ça arrive ?« Mon aîné » Elle pourrait le dire. Vous voyez ? Pourtant, Guy, t'as pas 16 ans. Un peu plus. Il faudrait juste inverser presque les chiffres. Vous voyez, on peut dire de quelqu'un que c'est mon enfant, mais ça ne veut absolument rien dire sur le nombre d'années. Et donc là, on a encore 1 roi 20, verset 4. Donc ça, c'est juste la première lettre au roi. Et bien, ce terme, il est utilisé pour des soldats. Donc, vous voyez, un soldat, on envoyait rarement des enfants à la guerre. Donc c'est des gens qui ont un minimum de 16 ans, et c'est ma conclusion ici, jusqu'à au moins 30 ans. On va dire entre 16 et 30 ans. Donc là, on n'est pas dans des jeunes adolescents ou même des tout jeunes enfants, comme c'est traduit malheureusement. Et attendez, c'est pas fini. Katan. Donc ça, c'est le deuxième mot. En général, j'ai regardé les occurrences. Il y a énormément, ce mot est cité dans beaucoup, beaucoup de textes. Et souvent, c'est le cadet de la famille. Et bien là, je reviens à la même chose que je disais à l'instant. Quand on dit c'est le cadet de mes enfants. Si vous avez 80 ans, votre fils, il en a 60, ça reste le cadet de vos enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pas parce qu'on dit c'est le cadet de la famille que ça veut dire qu'il a 13 ans ou 12 ans ou 11 ans. Vous voyez, c'est absurde de dire ça. En fait, le même mot, il est appliqué à Jacob lorsqu'il s'est enfui devant Ésaü alors qu'il avait environ 60 ans. Donc vous voyez, c'est le même mot. Ensuite, Benjamin en Genèse 44-20, alors qu'il avait 30 ans. Ensuite, on a les deux mots qui sont utilisés ensemble pour le jeune homme qui a cherché les flèches de Jonathan. Donc vous voyez, c'était quelque part le serviteur qui était là. Et pour Hadad, donc lui, il était assez âgé pour s'enfuir en Égypte. Donc du coup, on voit que c'est des gens qui n'avaient pas 12 ans, clairement. 1 Samuel 16-11, par contre, les emploie pour David lorsque Samuel l'a oint comme roi. Et là, honnêtement, si on regarde le descriptif, c'est un homme puissant et vaillant, homme de guerre prudent. Et il allait, ça c'était juste avant le combat contre Goliath, David avait déjà écrasé un lion et un ours de ses mains. Vous voyez un gamin de 12 ans faire ça, vous? Honnêtement? Donc, ce même terme est utilisé dans ces circonstances. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ça, c'est ma conclusion personnelle, mais je l'ai vu aussi dans plusieurs commentaires. Et voilà ce qu'il dit. Les jeunes qui se sont moqués d'Élisée n'étaient pas des petits enfants, mais de jeunes hommes entre 16 et 30 ans et peut-être plus. Donc, vous voyez, ça relativise quand même votre regard sur la situation. Donc, vous pouvez prendre votre crayon et mettez un trait sur adolescents ou jeunes enfants, et vous mettez au-dessus, mettez ces deux mots, écrivez dans vos Bibles, c'est ce que je fais moi, parce que quand on y revient dans 10 ans, vous avez oublié mon message. J'aimerais que tout le monde retienne tout ce que je dis, mais même moi j'oublie mes propres messages, donc je me leurre pas. Donc écrivez-le dans vos Bibles, ce n'est pas des jeunes adolescents, mais vraiment des jeunes adultes, à la limite. Écrivez jeunes adultes si vous voulez, mais pas des jeunes adolescents. Ça relativise un petit peu ici l'application du texte, n'est-ce pas? Ensuite, on va regarder l'objet de la malédiction. On a dit qu'on regardait, et en fait, ça vient de deux mots. Monte chauve, c'est le déclencheur de la malédiction. Juste deux mots en fait, ils l'ont répété. Si au cas où il a été un peu dur de la feuille, Élisée, on le répète deux fois. Monte chauve. Oui, une forme d'insulte quelque part. Et qu'est-ce que là honnêtement, vous vous dites quoi quand vous voyez cette insulte là? Ça vous semble gentil quand même. Monte chauve, c'est une petite moquerie, voilà, t'as un peu de calvitie. Allez, arrête quoi. Ça mérite quand même pas la mort. Ça ressemble plus à une blague de mauvais goût sur le physique d'Élisée qu'à un blasphème, n'est-ce pas? Et c'est pourtant cette petite phrase qui déclenche la malédiction. Alors qu'est-ce qui s'est passé juste avant ce récit? Parce que vous allez voir que ça explique aussi. Et je vous renvoie, et vous pouvez prendre vos Bibles, je l'ai mis ici, voilà. Vous pouvez le lire dans vos Bibles. Mais regardez ce que dit le texte, parce que juste avant, vous savez, Élie est monté au ciel. Et j'utilise bien ici le mot « monter au ciel ». Parce que c'est exactement le même mot qui est utilisé pour dire monte chauve. C'est pas anecdotique ça, c'est pas une coïncidence. Regardez ce que dit le texte ici. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. On appelle ça l'ascension d'Élie. C'est un miracle extraordinaire, c'est difficilement explicable, mais c'est ce que dit le texte. C'est repris à plusieurs endroits, donc c'est vrai. C'est étrange, mais c'est vrai. Et voyez le mot, j'ai vérifié dans l'hébreu, c'est exactement le même mot. Donc quand ils disent « monte chauve », à quoi ils font référence à votre avis? À Élie. Mais t'as qu'à faire comme Élie, si tu te dis prophète. Vous voyez? De la provoque. Est-ce que Élisée avait fait ses preuves? Il le savait. Pourquoi? Parce qu'il venait déjà de traverser le Jourdain et ensuite il avait béni toute la ville de Jéricho. Je peux vous dire que c'était pas très loin les villes, Bethel et Jéricho, il y a quelques kilomètres. Donc ça se savait et on savait que ce prophète était puissant. Et donc quand il dit monte chauve, fais comme lui, quelque part ils sont en train de réclamer un autre miracle. Ça vous rappelle pas les pharisiens dans le Nouveau Testament. Ça vous rappelle pas une expression impardonnable que Jésus a appelée le blasphème contre le Saint-Esprit? C'était pas des mots, c'était une attitude de cœur. Hein, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas parce que vous allez dire une phrase contre Dieu que c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. L'apôtre Paul en a dit plein et lui-même se dit blasphémateur et pourtant il est sauvé et il ira voir Jésus. Donc c'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment une attitude persévérante du cœur, une attitude de rejet, une attitude de mépris du Créateur, de mépris de Dieu. Et c'est exactement ce que faisaient les pharisiens. Je vous cite ici un texte. Non, je ne le cite pas maintenant, ce sera pour plus tard. Mais en fait, lorsque Jésus est confronté aux pharisiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent de voir le miracle et lui demandent d'en faire d'autres. Exactement dans la même situation que Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il les avertit et il leur dit, attention, ce que vous êtes en train de faire là, ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous m'avez vu faire un miracle. Vous avez la preuve de mon autorité, vous avez la preuve de l'authenticité et vous refusez de l'avoir en face. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit et votre jugement sera impardonnable. Donc là, à partir de ce moment-là, leur sort est scellé aux pharisiens. Ils ne pourront même pas revenir en arrière. Leur cœur est endurci. C'est exactement ce qui se passe ici. Sauf que la sanction, elle est immédiate. Pour Jésus, c'est une parole. Ici, c'est une action. Dieu va envoyer des ours affamés. Je ne sais pas s'ils sont affamés, mais en tout cas, j'ai regardé le mot et je me suis dit, mais en fait, le texte ne parle pas d'enfants morts. Et effectivement, vous ne voyez pas le mot mort, mais le mot, c'est déchiqueté, coupé en deux. J'ai regardé plusieurs occurrences de ce mot. Donc, ça laisse peu de chance de dire que c'est juste des quelques claques qu'ils ont mis aux adolescents. Hein. C'est plutôt sévèrement puni par la mort. Mais si vous vous souvenez d'un épisode qui a eu lieu juste un petit peu avant, vous vous souvenez? Et ça, c'est le lieu du crime. Donc on va avancer au point d'après. Un événement qui est arrivé avec son maître de stage, avec Élie, vous vous souvenez? Qui a été connu de tous. En fait, Élie a été provoqué par 450 prophètes de Baal. Baal, c'était une divinité qu'on adorait à l'époque, que d'ailleurs le peuple d'Israël adorait. Et donc, quand Dieu envoie des prophètes, c'est pour leur dire « Arrêtez d'adorer ces idoles et adorez le vrai Dieu. » Et je vais vous en montrer la preuve. Et vous vous souvenez de cet épisode dans 1 Roi chapitre 18 où Élie, il va loin. Élie leur dit « Ok, je vous laisse 24 heures toute la journée. Vous faites tout ce que vous voulez. » Vous allez faire brûler cet holocauste. Donc, ils mettent un animal, ils mettent du bois, ils mettent un animal dessus et ils implorent Dieu toute la journée et rien ne se passe. Et lui, il leur dit, ok, vous avez rien réussi à faire. Oh, mes pauvres, on dirait qu'il dort, votre Dieu. Il est un peu ironique là, hein. Mais il va faire creuser et il va faire arroser abondamment donc le bois et l'holocauste et l'animal. Donc vous imaginez, hein, là, c'est pas, tu viens pas avec ton allumette et t'essayes de craquer, ça marche pas. Là, il faut vraiment un miracle. Soit tu jettes un seau d'essence dessus, mais il n'y en avait pas à l'époque. Donc il va implorer Dieu et qu'est-ce qui se passe? Malgré l'eau, ça baignait dans l'eau. Hein. Le texte dit qu'ils ont creusé un fossé autour de l'Holocauste et il était rempli d'eau. Donc vous voyez, ça gorgeait d'eau. Pan, calciné comme ça, tout d'un coup, il invoque Dieu et ce miracle-là, les amis, était arrivé quelque temps avant ce qui se passe ici. On est dans 1 Roi 18, 2 Rois chapitre 2, mes amis, c'est quelques chapitres après. Donc il y a quelques années, donc la mémoire est encore fraîche, normalement. Mais apparemment, ces gens ont oublié. Et regardez le lieu ici, c'est Bethel. Bethel, ça veut dire le village ou la ville ou la maison de Dieu. Okay. Et au départ, ça s'appelait Luz. Hein, ça s'écrisait comme ça, L-O-U-Z. Alors c'était une ville de losers et maintenant c'est devenu une ville... C'est une blague. C'était une ville qui a été rebaptisée Bethel. Pourquoi elle a été rebaptisée ainsi? Ben, c'est la ville où Jacob a reçu sa vision de l'échelle. Vous vous souvenez? Et donc, c'était... C'était un lieu, en fait, au départ. Il a mis une pierre, donc il a mis une stèle, il a dit, voilà, ici, ce sera la maison de Dieu. Et donc, ils ont construit un village, et après, c'est devenu une ville. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Et regardez, ça a disparu. Quasiment disparu, il reste très, très peu de vestiges. En tout cas, du temps de Jacob jusqu'au temps des rois, cette ville était une référence spirituelle, mais ça va changer au moment de la division du royaume d'Israël. Au temps d'Élie et d'Élisée, c'est le roi Jéroboam qui régnait sur Israël. Vous connaissez Jéroboam ? La Bible dit que ça a été un des pires rois qui ait jamais existé. Pas terrible. Et c'est lui qui était là au moment où ses prophètes ont tous été exécutés. Parce qu'en fait, il y a eu une sanction. Quand il a fait descendre la foudre du ciel, il a démontré une chose, c'est que tous les autres étaient des faux prophètes. Et donc, ils vont tous être exécutés. Le texte dit même que c'est Élie lui-même qui les a égorgés. Là, ça, c'est un autre os. Donc, on le traitera une autre fois, si vous voulez. Mais ce Jéroboam, donc, qui régnait au moment d'Élie, lui, il a mis en place un culte, et vous savez où ? À Bethel. À Bethel. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait mettre en place un veau d'or, exactement, ça nous rappelle Moïse, hein, mais il a fait mettre un veau d'or à Bethel. Oh, les amis, c'est comme lorsqu'on construit une mosquée au-dessus d'un temple, hein, si ça vous rappelle quelque chose, c'est de la provoque pure. Et donc, Jéroboam va mettre en place un faux culte. Il va tout faire en parallèle d'Israël, mais il va mettre en place des prêtres et des prêtres qui ne sont pas lévites, bien évidemment. Et il va tout faire la même chose, mais en factice, vous voyez. Et donc, ils vont adorer un veau d'or, mais ils vont faire des sacrifices. Ils vont faire quasiment ce que faisaient les Israélites, sauf sans Dieu. Donc, une belle religion, un beau syncrétisme. Et cette ville va devenir le centre de l'idolâtrie. Donc Bethel, qui était une ville qui était dédiée à Dieu, quelque part, la ville de Dieu, eh bien, elle va devenir la ville du diable. Donc vous voyez, on est... Alors, c'est comme Genève. Genève, selon la période, il y a eu la réforme, ça a été éblouissant. Aujourd'hui, si on regarde les vestiges, il ne reste plus grand-chose. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens authentiques dans la ville de Genève ? J'en doute, les amis. Il y a aussi beaucoup de faux prophètes. Hein, peut-être la moitié des églises évangéliques sont des sectes. Je dis peut-être, je ne suis pas allé sonder chaque église, mais au vu de tous les gens qui viennent chez nous et qui nous racontent ce qui se passait dans leur église, à Genève, je me dis qu'en fait, ça cohabitait. Et si vous relisez Deux Rois, vous allez voir au début qu'il y avait des prophètes dans la ville de Bethel, des vrais prophètes, mais aussi des faux prophètes. Ça cohabite toujours. Relisez d'ailleurs cette semaine... Je pense relisez 1 roi, chapitre 12, chapitre 13, parce que c'est vraiment là où vous allez comprendre l'enjeu spirituel et pourquoi Bethel était devenu ce centre de l'idolâtrie. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, c'est que, en fait, ici, on a affaire à une situation qui est analogue à celle qui s'est déjà passée dans 1 roi. Et donc, probablement que ces jeunes gens qui descendaient alors que le prophète montait, il descendait de Bethel, c'était probablement, je dis bien probablement, là je mets des pincettes parce que le texte ne le dit pas directement, mais il est fort probable que ce soit soit des prêtres, des jeunes prêtres idolâtres, soit des disciples, quelque part, d'un maître spirituel idolâtre aussi. Donc ce n'est pas des gens neutres, vous voyez, c'est... toute une école de prophètes. Il y avait des écoles de prophètes, mais une école de faux prophètes. Et donc là, ce ne sont pas des jeunes adolescents du groupe de jeunes, les amis. Ce sont des jeunes hommes, probablement initiés, voire des prêtres ou des sacrificateurs même, des jeunes prêtres, jeunes sacrificateurs, mais pour des idoles. Donc on n'a pas affaire à des jeunes adolescents, tout neutres, tout innocents. Est-ce que ça vous fait regarder le texte différemment ? Okay. Je vous ai donné simplement une analyse du contexte. On aurait beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais quand même que vous repartiez à la maison avec des applications. Alors, déjà, on va regarder les mauvaises applications. Parce que, premier réflexe, on prend le texte, on applique le texte. Tu ne dois jamais déprécier la calvitie de ton pasteur. Okay ? Tu ne dois jamais te moquer d'un serviteur de Dieu. Ça, je l'ai entendu plein de fois. C'est loin de l'Éternel, L-O-I-N-T, hein, pas loin, L-O-I-N. On est d'accord. Donc, tu touches pas au serviteur de Dieu. C'est dans la Bible, oui. Tu dois toujours respecter les anciens, hein, les vieux. Parce que, en fait, on dit, bah oui, ils étaient chauves, ils étaient jeunes, tu respectes les vieux. Mauvais, les amis. C'est pas ça, les applications du texte. Alors oui, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas ce que dit le texte. Vous pouvez trouver ce genre de justification dans d'autres textes, mais pas dans celui-là, s'il vous plaît. Ne tirez pas ce genre d'application. Alors moi, ce que je vous suggère comme application, la première, et c'est pour moi le point central, on ne se moque pas de Dieu impunément, c'est-à-dire sans conséquence. Il y a toujours une conséquence à notre attitude et à nos actes et même à nos paroles. Lorsque je dis ici se moquer de Dieu, il faut comprendre avoir du mépris pour sa personne, pour ce qu'il est, car c'est ce que Dieu a jugé chez ses hommes. Il a jugé leur mépris, les amis. Ce n'est pas leur parole, c'est le fait qu'ils méprisaient le prophète de Dieu. Et ce que je vous disais, c'est quand on méprise un prophète, on méprisait Dieu, directement. Ligne directe. Donc se moquer d'un prophète dans l'Ancien Testament, c'était se moquer littéralement du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans la même alliance. On est dans une alliance de grâce. Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura plus de jugement pour nous? Eh bien non, les amis. Un jour, Dieu va mettre fin à ce monde. Il va juger nos œuvres et il va évaluer notre piété ou notre mépris de sa personne. 2 Timothée 2,12 dit, et c'est Paul qui le dit, « Celui qui m'aura renié ici-bas, je le renierai là-haut au ciel. » Et donc, il y aura une juste rétribution de notre mépris de Dieu. Et je pense que ce n'est pas le seul texte, je vous en lis un autre. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Pierre. Sachez, donc 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 15. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de raillerie. » Ça vous rappelle pas notre épisode? Donc il viendra des moqueurs pleins de raillerie qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Monte, monte !» Non, c'est pas dans le texte le « monte, monte ». Mais « Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Elle fait une petite parenthèse. « En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. » Il parle du déluge. « Mais par la même parole, et écoutez bien ce que ça c'est maintenant, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve. » Pourquoi ? Pour qu'on vive heureux sur cette terre? Non, 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 non. Les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. C'est quoi des impies? C'est des incroyants, des moqueurs, des gens qui méprisent Dieu, des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Cette terre est préservée jusqu'à ce jour-là. Le texte est très solennel ce matin. Mais, il y a toujours une. C'est le verset 8. Mais, le mais, ça nous sauve la vie. Hein. C'est la porte de sortie. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Mes amis, un jour, Dieu va siffler la fin du match et nous devrons lui rendre des comptes. Tout ce qu'il y a sur cette terre et toutes nos œuvres qui sont avec vont passer au travers du feu. Et à la fin du verset 22, à la fin, j'ai sauté. À la fin du verset 7, pardon, pas du verset 22, on n'a pas lu. Pierre parle du jugement des impies, et donc il dit que ces gens vont être jugés. Mais ce sont les impies, donc les injustes, ce sont des incroyants. Quand ils vont arriver devant Dieu, devant le tribunal de Christ, ils n'auront aucun avocat. Aucun avocat. Mes amis, ça va être un grand moment de solitude. Un grand moment de solitude. Tous ceux qui auront méprisé leur Créateur, qui seront moqués de lui, moqués de sa parole, qui auront vécu comme s'il n'existait pas, vont être jugés sans avocat. Et ils iront, le texte dit, à la perdition éternelle, c'est-à-dire à un lieu où Dieu est absent. Le genre de favelas où le crime règne et où il n'y a aucune loi, aucune justice et aucun amour. Ça donne pas trop envie d'y aller, les amis. Ça donne pas trop envie d'y aller, en tout cas moi. Mais vous avez vu cette porte de sortie, là je vous l'ai mis ici, la porte de sortie, 2 Pierre 3:9. Mais Dieu use de patience envers nous, il ne veut pas qu'un seul homme, qu'une seule femme, qu'un seul enfant, qu'un seul ado, qu'un seul jeune gens, vous l'appelez comme vous voulez, périsse. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est tout simple, c'est reconnaître que l'on a vécu loin de Dieu, qu'on a vécu d'une manière égoïste, et regretter ça. Le regretter et se tourner avec confiance vers la personne de Christ. 2 éléments. Donc, confesser, se repentir, c'est constater le problème, constater qu'on a échoué, qu'on est en échec spirituel devant Dieu, et faire confiance à Jésus. Ce sont les 2 éléments indispensables pour échapper quelque part à cette perdition éternelle et vivre une éternité loin de Dieu. 2e application. Nos paroles expriment ce qu'il y a dans notre cœur. Ces jeunes hommes ou ces jeunes prêtres ont provoqué un prophète de l'Ancien Testament à leurs dépens. Ils ont subi un jugement immédiat. Et ça nous choque parce que la plupart du temps, lorsque nous, on fait la même chose qu'eux, voire moins gros, en tout cas en apparence, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Hein, la plupart des gens disent « Oh, ben, si Dieu existait !» Sauf que parfois, ça arrive. Il y a des jugements immédiats. Et je ne vous le souhaite pas, mais on le voit dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira. Et là, je peux vous dire que ça a calmé toute l'Église. Enfin, quand je dis calmer, ça les a fait réfléchir à la sainteté de Dieu, en fait. Et Dieu, parfois, dans l'histoire, agit de cette manière pour faire, quelque part, donner une prise de conscience à ses enfants. Et c'était le but ici. C'était le but pour que ces idolâtres qui étaient sur Bethel et d'ailleurs ailleurs dans les autres villes alentours, qui adoraient un faux Dieu, eh bien, soient saisis de crainte parce que Dieu est vivant. Vous connaissez probablement cette parole de Jésus qui dit, donc c'est Jésus qui s'y parle à des pharisiens, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » En fait, les paroles qui sortent de notre bouche sont le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, dans notre cœur. Les paroles sont une projection de nos pensées. Et la plupart du temps, elles révèlent ce que nous croyons au fond de nous-mêmes. Dans le cas de ces jeunes hommes, les paroles révélaient leur mépris du Dieu d'Israël, le mépris de leur Créateur, en fait. Et je te pose cette question, je me la pose aussi, que sort-il de ta bouche concernant ton Créateur ? Est-ce du mépris ou de l'admiration ? Est-ce de l'indifférence ou de l'enthousiasme ? S'il ne sort jamais rien de nos bouches, c'est que nous ne nous nourrissons pas assez de Jésus, du pain de vie. Si nous sommes secs, c'est probablement parce que nous ne nous abreuvons peu ou pas à la source d'eau vive, Jésus. On n'est pas assez en relation avec Dieu. Donc si vous ne parlez jamais de Jésus, les amis, c'est que votre cœur n'est pas rempli de Jésus, tout simplement. Et vous pouvez prendre toutes les techniques d'évangélisation et de communication. Ça sera que du marketing si ton cœur n'est pas rempli de Jésus. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc moi, je t'invite, si c'est les vacances, et là, il y a 2 dimanches sans rien, pas de culte. Donc ne venez pas la semaine prochaine, hein, c'est super, là, c'était la fête aujourd'hui, sauf que la semaine prochaine et la semaine d'après, il n'y aura pas de culte. Profitez-en pour aller manger le pain de vie, pour aller boire à la source d'eau vive. Reconnectez-vous avec votre Créateur, parce que je sais que quand on travaille, c'est compliqué. On mange sa tartine en même temps qu'on lit sa Bible, on rentre dans le train, on est fatigué, on relit 3 fois le verset, on l'oublie, on le relit à la maison, on le roublie, et puis on s'endort là-dessus. C'est compliqué la vie. Profitez de ce temps de répit pour vous reconnecter à votre Créateur. Et troisième application, Jésus est venu pour sauver les jeunes hommes, pas pour les juger. Vous savez, quand j'ai lu ce texte, ça m'a immédiatement embarqué dans un épisode dans Luc chapitre 9. Vous vous souvenez? Quand il y avait les disciples, ils étaient zélés les disciples. Et à un moment donné, ils viennent annoncer l'évangile et puis les gens refusent. Et puis ils se tournent vers Jésus. « Tu veux qu'on fasse descendre la foudre du ciel ?» Et vous savez ce que Jésus leur a dit? Voilà. Il se tourna, donc Luc 9, verset 55, il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc vous voyez, on est dans une autre alliance aujourd'hui. On n'est plus sous l'ancienne alliance. On est sous la nouvelle alliance. Et cette alliance-là, on est dans un temps de grâce. Mais à un moment donné, Dieu va quand même siffler la fin du match. Donc profitez de ce temps-là, les amis. Je vous le dis parce que, si vous ne saisissez pas ce message, cette perche que Dieu vous tend, ce sera trop tard après. Je vous lis Jean 3, versets 17 et 18. Vous connaissez Jean 3, 16 par cœur, la plupart d'entre vous. Mais les versets 17 et 18 sont hyper importants. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc vous voyez, ça c'est vraiment pourquoi Jésus est venu. Mais regardez le verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé sans avocat, les amis. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce jugement? Le texte est très clair, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc ce matin, si tu n'es pas au clair par rapport à ça, mon ami, je t'invite à placer ta confiance en Jésus. Croire, c'est placer sa confiance dans ce que Jésus a fait sur la croix. Il a pris la colère de Dieu, il a pris tes péchés à ta place. Le péché est venu sur Jésus et la colère de Dieu est tombée sur lui, c'est lui qui est mort à ta place. Il a pris la foudre à ta place, il a pris la foudre à ma place. Mais il faut que tu lui fasses confiance. C'est ce que dit le texte, c'est pas moi qui ai inventé la méthode, c'est Jésus qui la donne. Celui qui croit en moi ne sera pas jugé. Celui qui se place sa confiance en Jésus ne sera pas jugé. Je ne reviens pas sur le jugement, mais ça ne me donne vraiment pas envie. Donc, si c'est un message ce matin que tu dois retenir, retiens celui-là. Jésus est venu pour te sauver. Que tu sois jeune homme, jeune fille, ou vieux et vieille, âgé et né, on va dire. Ce message est pour vous aussi.